France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast, c'est l'apéro quelle que soit l'heure alors, car j'ai rendez-vous dans mon bistrot avec une femme qui va nous emmener de la Norvège à la France en passant par Bruxelles. On va parler corruption, hein, je pense que vous avez deviné que je reçois Eva Joly. Bienvenue, maître.
Bonjour, Charlène Pannemaker. Merci de votre invitation.
Mais merci de l'avoir accepté.
Oui, c'est un endroit très sympathique.
Il y a un terme en Norvège pour dire un peu à la bonne franquette, une conversation cool comme ça.
On dit c'est kuschel. C'est kuschel, c'est vraiment la notion, c'est-à-dire c'est ce qui est le plus important dans la vie, c'est d'être bien ensemble.
Oh oui.
Pour ça, il faut des bougies, il faut des couvertures, il faut des
livres. Ah ouais.
Oui, c'est tout un art.
On va s'installer sous un plaid, on va discuter.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Eva Joly, vous rentrez tout juste de Norvège, là.
Oui, je suis rentrée hier soir.
Qu'est-ce que vous avez fabriqué là-bas encore?
J'ai été recrutée il y a 2 ans et demi par l'université de Stavanger. Vous savez, Stavanger, c'est la capitale du pétrole, pour les aider dans un projet historique qu'ils avaient, de documenter tous les éléments autour d'un énorme accident industriel qui est survenu en 1980, où une plateforme de forage qui servait d'habitation en pleine mer s'est retournée. Mmh. Et c'est vraiment titanique à la norvégienne, ah. C'est-à-dire...
Drame historique en Norvège.
Drame historique. Et 123 personnes sont mortes. La plateforme s'est retournée en 20 minutes. Et il y a une enquête par une commission spécialement nommée qui a conclu à ce qu'il n'y avait pas de faute norvégienne de commise. Toutes les réglementations avaient été respectées. Et c'était la faute de Dieu et des vagues. Et un petit soudeur français, parce que la plateforme est construite à Dunkerque. Et l'idée des Norvégiens, quand ils m'ont appelé, c'est que je pourrais peut-être ouvrir ici des archives historiques pour trouver des éléments sur la construction. Et donc j'ai accepté ça, parce que je trouvais ça très motivant. Et je me suis dit qu'à l'âge qui était le mien, il faut choisir ses dossiers, puisque vous ne pouvez plus en faire beaucoup. Et cela était vraiment très très bien. Et donc depuis 2 ans et demi, je travaille avec des historiens, et ça a été passionnant. Je n'avais jamais fait ça avant, c'est-à-dire les archives. Et en utilisant les archives de la police, avec mon regard d'enquêtrice, j'ai vu que c'était la plus mauvaise enquête de l'Europe du Nord depuis 50 ans et que rien n'avait été fait de ce qui devait être fait et qu'évidemment la vérité était très loin de la vérité officielle. À l'époque, les ouvriers avaient eu un dédommagement à l'amiable très faible. Par exemple, quelqu'un qui a survécu, mais qui avait quand même vécu ce drame horrible, qui avait sauté dans la mer déchaîné à 4 degrés avec des vagues de 6 mètres, on lui proposait 2000 euros. Et il signait comme quoi il n'allait jamais poursuivre Philips, qui avait les droits de forage, ni les armateurs. Et donc, aujourd'hui, après notre rapport déposé ce samedi, il y a déjà un débat au Parlement et le principe d'une indemnisation convenable des familles, ils sont 212, est déjà acté.
Wow. Et on ne vous arrête jamais, Eva Joly, c'est tant mieux.
Non, mais je suis tellement contente.
Oui, félicitations.
Ouais. Merci.
Ah oui. Et alors, donc, on comprend bien que vous êtes toujours très active et très utile. Aujourd'hui, vous êtes avocate dans le cabinet de votre fille. Et ensemble, vous continuez les luttes. On vient d'en évoquer une. Il y a aussi, bien sûr, celle de réformer la fiscalité des multinationales. Et donc, il y a 2 ans à peu près, vous avez fait raquer McDo, qui a dû payer combien ?
1,3 milliard.
Oh là là, mais comment vous avez fait ? Vous pouvez nous résumer ?
Oui, je peux. C'est l'idée que... Les nouveaux combats syndicaux, c'est de changer un peu les habitudes, moins manifester dans les rues et plus regarder les comptes. Et en France, dans les commissions économiques et sociales, les syndicats ont accès aux comptes des entreprises. Et c'est avec la CGT qui avait diagnostiqué que chez McDo, il y avait des flux financiers qui partaient vers le Luxembourg dont ils ne comprenaient pas l'origine ou la raison d'être. Et c'est ainsi qu'ils sont venus me voir et que j'ai plongé dans les comptes avec mon expert de toujours. Et nous avons établi que les redevances pour la marque McDo étaient le double en France qu'ailleurs. Et qu'en réalité, c'était ajusté pour que les résultats soient à peu près au zéro ou légèrement négatifs. Et donc, ça donne des arguments à l'entreprise pour dire aux ouvriers, je ne peux vous payer que 12 euros de l'heure parce que vous voyez bien, mon résultat est zéro, quoi. Et donc, ça a été, je crois, une première mondiale de démontrer qu'ils trichaient pour que les résultats soient artificiellement à zéro. Et en réalité, comme vous l'avez peut-être vu dans tout ce qui concerne Ikrit ou Tax Wars, c'est le cas de à peu près tous les multinationales. Ils utilisent le prix de transfert, c'est-à-dire des commerces avec eux-mêmes. Ils ouvrent énormément de filiales partout dans les paradis fiscaux et ils passent des conventions qui sont très mauvaises pour l'entreprise française, par exemple, avec l'objectif de réduire l'assiette fiscale dans les pays à haute fiscalité pour que ce résultat se trouve dans des paradis fiscaux, par exemple à Îles Caïmans, où l'impôt sur le bénéfice est zéro. Mais bon, maintenant, il y a eu vraiment un progrès très important fin 2021 par la volonté de Joe Biden qui a voulu instaurer un impôt minimal aussi sur les filiales américaines dans les paradis fiscaux. Lui, il proposait 21%, ce qui était vraiment un très bon taux. Ça a été négocié et discuté au G20 et au G7.
Et est-ce que la France a suivi ?
Non, la France a résisté. Ah. Et là, c'est très amusant de voir la différence entre le discours de M. le maire, qui voyageait partout dans le monde pour dire qu'il faut imposer convenablement les multinationales, et lorsqu'il a l'occasion d'établir cet impôt, la France a soutenu un taux de 12%, c'est-à-dire le taux de l'Irlande, le taux d'un paradis fiscal. Et donc, nous avons pesé la France vers le bas. Il y a eu un compromis à 15. Alors, il faut acter que c'est un progrès, que 15 c'est moins bien que 21, mais c'est beaucoup mieux que zéro. Et donc, aujourd'hui, il y a bien une imposition minimale, même pour McDo, donc à Luxembourg ou ailleurs, qui fait que toutes ces opérations deviennent un peu moins intéressantes.
Encore une victoire d'Eva Joly. Et on rappelle qu'il n'y a pas de super profit. Hein.
Non, il n'y en a pas.
Bah non, c'est, voilà.
Non.
C'est ce qui est enseigné en Suisse, puisque Bruno Le Maire, on pense à lui, est enseignant en Suisse aujourd'hui et on souhaite bon courage aux étudiants. Et dire, Eva Joly, que vous avez pourtant démarré dans le show business et les paillettes, puisque vous avez été secrétaire chez Eddie Barclay.
Mais oui.
Oui.
Mais oui, c'était assez amusant. Oui.
Ouais. Oui. Et c'était assez amusant d'ailleurs parce que vous avez aussi monté une section syndicale.
Oui. Voilà, alors à l'époque j'étais étudiante en droit, je sais pas, genre troisième année quoi. Mm-hmm. Et Barclay avait des difficultés et il licenciait les gens sans respecter vraiment les règles. Et donc, je trouvais qu'il fallait remédier à ça. Et j'allais voir les directeurs artistiques pour leur expliquer que vraiment, il fallait faire quelque chose. Je dois dire que j'étais assez froidement reçue. Par contre, les gens des stocks, des gestions de stocks, ils étaient partants. Donc, j'ai bien fait une section syndicale CFTT.
La révolution chez Eddie Barclay, quoi.
Oui.
Excellent, il a dû flipper. Oui. Alors on va évoquer votre vie, Eva Joly, entre la Norvège, Bruxelles évidemment, avec l'Europe, l'Afghanistan, l'Afrique, voilà, on va parler de politique. On se souvient que vous avez été candidate à la présidentielle et j'ai découvert aussi que vous aviez été élue en Norvège. Vous avez été élue troisième à Miss Norvège. C'est vrai, hein ?
Oui, c'est vrai.
Eva Joly, vous publiez vos mémoires. Elle s'intitule « J'ai passé une nuit d'hiver dehors », paru aux éditions Les Arènes. « J'ai passé une nuit d'hiver dehors », c'est une expression norvégienne ?
C'est une expression norvégienne qui dessine quelqu'un qui a traversé des épreuves de la vie ou des difficultés et qui a survécu. Et l'idée, c'est que le froid tue, et le froid tue très rapidement. Donc si vous ne savez pas comment vous protéger du froid en creusant un petit igloo, par exemple, en vous enterrant dans la neige, ouais, mais vous mourrez. Et donc, cette expression, je l'aime bien. Je trouve, ouais, que c'est très parlant.
Ça m'a fait penser à quelle est la politique de la Norvège vis-à-vis des SDF, parce que si on ne peut pas rester plus de quelques heures dans le froid et qu'on meurt, ils ont une politique différente.
Oui, on ne peut pas être SDF. Là, par exemple, on a eu un épisode de froid polaire début janvier, et le baromètre est descendu très bas, et la température aussi, genre moins 20. Donc, il y a des centres d'accueil. Et surtout, c'est une société où il y a beaucoup moins de monde qui sont à la marge. C'est une société beaucoup plus inclusive. Et avec des prestations de maladie, par exemple, ou d'invalidité généreuse.
Oui. On a envie de vous suivre.
Je pense que vous n'aimerez pas beaucoup l'hiver.
Ah oui, non, ça, par contre, oui, ça peut être...
J'en reviens, et ouais. Oslo n'a pas chassé la neige dans ses rues.
Oui, j'allais vous demander quelque chose qui ne marche pas en Norvège, pour nous rassurer un peu, parce qu'on a toujours l'impression que c'est tellement un modèle, ouais, idéal.
C'est-à-dire que là, par exemple, vous ne pouvez pas sortir sans avoir des chaussures cloutées, ou des pics qui sous vos chaussures.
Ah oui, vous avez ça, vous?
Oui, j'ai, ah ouais, des pics amovibles, voilà, et c'est très contraignant.
Oui, oui. Eva Joly, vous voyez le jour donc en Norvège, alors que le pays est occupé par les Allemands. C'était comment les conditions de vie ?
La Norvège était réellement occupée. Il y avait 300 000 soldats allemands positionnés en Norvège. Ils étaient logés chez l'habitant, beaucoup dans les fermes. Il y avait des pénuries, évidemment très fortes, pénuries alimentaires. Et comme en France, c'était des hivers exceptionnellement froids. Donc on manquait de tout. Et c'était une période de privation. Moi, je ne l'ai pas vécu. J'étais trop petite. Par contre, j'ai les souvenirs des pénuries dans les années qui ont suivi. Dans les années 50, tout était encore rationné. Le sucre, le beurre, la viande. On avait des cartes de différentes couleurs et on devait utiliser des cartes pour obtenir des bonbons, par exemple.
Alors, après votre épisode Miss Norvège, donc, vous faites des études supérieures, ce qui est rare pour une femme à l'époque. Vos parents étaient progressistes.
Oui. Pour mes parents, c'était très important que leur fille soit indépendante, ne dépend pas d'un homme. Ça, c'était vraiment un mantra dans notre éducation. Et je suis très reconnaissante à mes parents d'avoir veillé à mon éducation, c'est sûr.
Alors, vous arrivez en France ensuite, jeune fille au père dans une famille dont vous épousez le fils. Oui. Et vous découvrez la bourgeoisie.
Mais oui. En Norvège, c'est beaucoup moins marqué. Évidemment, il y a des gens plus riches que d'autres. Mais comme il n'y a pas d'école privée, pas d'hôpitaux privés, les structures sont les mêmes pour tout le monde à l'époque. Et arrivant en France et voir la différence de vie entre la concierge, par exemple, ou les ouvriers et la bourgeoisie, pour moi, c'était très choquant. Et d'ailleurs, j'ai commencé par proposer à la bonne de ma future belle-mère des cours de cuisine pour qu'elle puisse devenir cuisinière.
C'est pas monté de syndicat, là.
Mais je lui ai trouvé des cours de cuisine.
D'accord. C'est grâce à cette famille, qui devient votre belle famille, que vous osez vous lancer dans la magistrature, d'une certaine manière, et ils vous ont encouragé.
Non, je dirais pas ça. Je pense qu'en réalité, avec mon enfance, avec une famille merveilleuse, très aimante, et mes petits succès, c'est-à-dire que j'avais passé un baccalauréat de mathématiques, ce qui était rare pour les filles, tout ça, j'avais une confiance en moi assez immodérée. Je trouvais que j'étais bien outillée pour la vie. Et à vrai dire, j'avais travaillé dans un hôpital psychiatrique pendant un certain nombre d'années, 8 années, lorsqu'ils ont annoncé le concours exceptionnel de la magistrature. Et j'ai décidé de m'y inscrire en disant que je n'avais rien à perdre, que je commençais à m'ennuyer un peu à mon hôpital. Et j'ai passé le concours et j'étais reçue. Et j'étais très étonnée en réalité d'avoir réussi ce concours.
Et puis l'un de vos premiers gros dossiers, c'est Bernard Tapie et le Phocéa. Quel souvenir il vous a laissé, Bernard Tapie ?
Il avait un charisme incroyable, ça c'est sûr.
Ah oui, vous a séduit.
Oui.
Vous commencez par là, il vous a séduit.
Non, mais il avait une vitalité. et un chat incroyable. Donc il fallait bien préparer les interrogatoires pour ne pas se laisser embarquer quand on l'interrogeait.
Oui, vous écrivez dans vos mémoires, certaines fois il fallait que je m'accroche à la table.
Pour ne pas adhérer à cette thèse, oui.
Ah, il a fallu résister, quoi.
Il faut résister.
Ça, c'est fou. Alors, vous écrivez dans vos mémoires qu'il a crié en pyjama au moment de l'arrestation. « La police fasciste m'arrête !»
Oui. Et il ne voulait pas s'habiller.
Ah oui.
Et alors, moi, j'étais dans mon cabinet au palais, et les policiers étaient quand même un peu gênés de cette situation. Ils m'ont dit « Mais qu'est-ce qu'on fait, Madame Joly ?» Et j'ai dit « Écoutez, vous me l'amenez en pyjama, c'est pas grave. »
Bernard Tapie en pyjama. Eh bien, j'ai l'image. Mais oui, conclusion, il y a une forme d'indulgence populaire, finalement, parce que c'est quand même le roi de la corruption.
Oui.
Et avec son charisme et le fait qu'il était patron de l'OM...
Mais il avait aussi des qualités. Vraiment, j'ai discuté avec les directeurs de prison qui m'expliquaient quel détenu modèle il était. C'est-à-dire que quand, à la prison, ils avaient du souci pour un jeune déprimé, il les mettait dans la cellule de Bernard Tapie.
Mais non.
Si. Et il organisait aussi des matchs de foot là où il était. C'est-à-dire, d'une certaine façon, il vivait pleinement la prison. Et ça, pour moi, c'est vraiment une indication de qualité humaine, quoi. C'est-à-dire qu'il s'occupait des gens autour de lui. Et c'était un très grand contraste par rapport au grand patron qui, détenu, pleurnichait beaucoup.
Bah, en fait, il était très utile en prison, Bernard Tapie. Il aurait dû rester plus longtemps.
En tout cas, il a...
Ah oui, il en a fait quelque chose.
Ce que je trouve, il n'en parlait pas. Ce n'est pas lui qui raconte ça, c'est les directeurs de prison.
Et donc, c'est élégant.
C'est élégant, ouais, c'est vrai. Ouais.
Et tandis que les autres, ils chouinent. Les cols blancs qui sont arrêtés, ils chouinent.
Oui, ils se plaignent beaucoup.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Donc, l'affaire Elf... 256 classeurs.
Oui, gros classeurs. Oui.
Oh là là, dites donc. Rien que pour tout lire, il faut 3 mois.
Oui.
Et là, je suis obligée pour nos auditeuristes de vous demander, est-ce que vous pourriez la résumer ? On se resitue cette affaire, elle.
Bon, le principe, c'est qu'il est possible de dégager des fonds de plein de façons différentes lorsque vous dirigez une entreprise pétrolière. L'idée, c'est toujours... Comment transformer les fonds publics en fonds privés? Et c'est assez facile à comprendre. Vous, par exemple, vous êtes vendeur d'une petite entreprise pétrolière. Vous voulez le vendre à Elf. Vous vous mettez d'accord sur le prix, par exemple 15 millions. Et puis, le soir, il y a quelqu'un qui vient vous voir pour dire « Mais le prix, réellement, ne va pas être 15, mais 20. » Et dans ces 20... Bon, il y aura 2 pour vous. Donnez-moi le compte sur lequel on va le verser. Et donc, tous les contrats qui passaient Elf à l'époque, il y avait ça. Il y avait ces pompes, comme je les appelais.
Ils pompaient.
Ils pompaient. Et donc, tous les contrats qu'ils passaient, il y avait des fonds qui étaient versés dans leur grand baignoire de collecte. Et ces baignoires de collecte se trouvaient beaucoup à Genève, sur des comptes là.
Ah là, j'ai l'image d'un patron dans une baignoire de billets, quoi.
Oui, c'est ça.
Ah
c'est
oui. Un peu... D'argent c'est... public, bien sûr.
Oui.
Parce que c'est plus doux.
Oui.
Le papier est meilleur.
À mon avis, ça a toujours existé dans le pétrole. Mais ce qui est nouveau avec Elf, c'est que ça prend des proportions énormes et aussi que les dirigeants s'enrichissent personnellement. Je pense que dans la période précédente, peut-être qu'ils s'enrichissaient un peu, mais pas du tout à la même échelle. Parce que ce que j'ai établi, ou ce que nous avons établi d'Elf, c'est que le dirigeant, sur ses fonds, se payait des maisons luxueuses, des châteaux, des jardins, des équipements, des diamants, des bijoux, des antiquités, tout ce qui leur passait par la tête. Parce que lorsque vous avez des centaines de millions dont vous ne rendez pas compte à personne, je veux dire, personne ne sait ce que vous avez, il faut une très grande intégrité morale pour ne pas s'en profiter.
Vous avez foutu la trouille à tout le patronat français à partir de là.
Je ne sais pas. Non, ce que l'affaire Elf a établi, c'est que l'impunité n'est pas assurée. Il y a aussi l'évolution de la législation, parce que jusqu'en 2000, les montants que vous payez pour corrompre un public officiel à l'étranger étaient déductibles des impôts. à partir des conventions signées, la convention de l'OCDE ou la convention de l'ONU en 2003, l'obligation est faite aux États d'en faire une infraction pénale sévère, c'est-à-dire avec des peines sévères.
Il y a un avant et un après l'affaire Elf pour la France, le monde et pour vous aussi, Eva Joly.
C'est vrai.
Ah oui. Tiens, tant qu'on parle de corruption, vous suivez un petit peu le procès de Nicolas Sarkozy, enfin un des procès?
Je suis tous les procès importants en France.
Ouais.
Et celui-ci, pour moi, est un procès magnifique, c'est-à-dire le résultat de 10 années d'enquête avec énormément de commissions rogatoires internationales et avec beaucoup de preuves de flux financiers différents, mais qui tous convergent vers Nicolas Sarkozy et son entourage. Et je suis très admiratrice de mes anciens collègues d'avoir tenu bon et d'avoir su conduire ce dossier malgré tous les bruits autour, parce qu'on peut observer que Nicolas Sarkozy a une bulle autour de lui très protectrice et qu'on attaque énormément les magistrats, comme si dans un pays les magistrats pouvaient être le problème. En tout cas, en France, pour moi, c'est les bijoux de la couronne. Nous avons une justice qui n'est pas corrompue, et ça, c'est déjà... Je veux dire, j'ai beaucoup travaillé à l'international sur la corruption. Il y a peu de pays qui ont une justice qui marche aussi bien que la nôtre. Parce que nous recrutons, par un concours très sélectif, des très bons juristes. Et donc, la légitimité de nos magistrats, c'est dans leurs compétences. Ce n'est pas du tout le cas, par exemple, aux États-Unis, où les procureurs et les juges sont élus, donc ils doivent plaire. Et je trouve très frappant de voir qu'en France, on a été capable de condamner des anciens premiers ministres, des candidats comme Fillon. Je veux dire, les mains de nos magistrats ne tremblent pas. Et de regarder aux États-Unis, où il y avait l'évidence d'infraction contre Donald Trump à l'appel, et ils n'en ont rien fait. Ils ont eu 4 ans, ils n'en ont rien fait. Donc on voit bien là que l'influence politique est totale et on voit la menace que c'est pour la démocratie et où cela nous a mené. C'est évidemment extrêmement important de pouvoir juger les dirigeants qui dévient. Et donc je suis ce procès avec beaucoup d'intérêt et je suis frappée par plusieurs choses. Je trouve que Nicolas Sarkozy et ses défenseurs sont parfaitement dans leur rôle quand ils disent « je suis innocent, l'enquête ne vaut rien ». Bon, on attend sans d'eux. Mais je trouve que l'esprit critique n'est pas toujours présent chez les autres commentateurs du procès. Notamment, il y a des journalistes qui n'ont pas assez creusé, qui n'ont pas fait leur devoir convenablement et qui répètent les éléments de défense comme si c'était la vérité. Et ça, je trouve ça inquiétant parce qu'ils critiquent violemment tout le temps l'institution judiciaire qui est évidemment le pilier de notre démocratie. Si vous arrivez à faire croire aux citoyens que la justice ne traite pas tous les citoyens de la même façon, mais vous abîmez vraiment notre démocratie. Donc pour moi, c'est très important que ce procès se déroule calmement, normalement, et il est très important que les commentateurs soient objectifs et n'avalent pas tous les éléments de la défense comme la vérité pure. Parce qu'avant que le dossier soit renvoyé, il a été vu par des dizaines de magistrats, n'est-ce pas? Il n'y a pas que les juges d'instruction, il y a les parquets, il y a la cour d'appel, la cour de cassation. Donc il y a beaucoup de professionnels qui ont vu et qui pensent que les charges sont suffisantes pour que l'affaire soit renvoyée. Si cette procédure aboutit à établir la culpabilité, ça veut dire quoi? De se faire financer par un des pires dictateurs de la Terre? C'est aussi, je trouve, une réflexion que nous devons faire collectivement. D'ailleurs, j'ai un conseil de lecture à faire pour les citoyens, mais peut-être plus particulièrement pour ceux qui s'intéressent à ce procès. C'est le livre d'Anne Lauvergeon, qui s'appelle « La femme qui résiste ». Elle raconte, lorsqu'elle était présidente d'Areva, comment Nicolas Sarkozy mettait la pression sur elle pour qu'elle baisse la sécurité des centrales nucléaires pour pouvoir les vendre moins cher, parce qu'il voulait les vendre à la Libye. Ça faisait partie de son deal avec Kadhafi.
Waouh ! En plus, vous êtes très sympathique parce que vous venez nous parler de vos mémoires parues aux éditions Les Arènes, « J'ai passé une nuit d'hiver dehors ». Et vous faites la promo d'un autre bouquin, c'est sympathique. Vous êtes généreuse, vous êtes vraiment de gauche. Vous êtes dans le partage, Eva Jolie. Hein.
C'est... Oui, ça c'est sûr, je suis dans le partage.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, je suis attablée au bistrot avec Eva Jolie, aujourd'hui avocate, ancienne candidate à la présidentielle, juge, l'affaire Elf, vous avez beaucoup voyagé, vous luttez toujours pour réformer la fiscalité des multinationales dans le monde. Et puis votre carrière politique, elle est née par hasard dans un avion. Votre voisin de siège vous dit bah, « Pourquoi vous ne lanceriez pas en politique ?» C'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Et cette personne pouvait vous faire rencontrer François Bayrou.
Oui.
Dites donc, vous auriez dû insister, parce qu'aujourd'hui, vous seriez garde des Sceaux, en fait.
C'est vrai. J'ai fait une erreur.
Donc bon, la rencontre a été furtive, oui, pas très, très productive.
Non.
C'est surtout Daniel Cohn-Bendit.
Mais oui, ouais. C'était autre chose.
Ça, c'était Cohn-Bendit avant qu'il devienne de droite. Vous devenez élue députée européenne. Vous dirigez la commission du développement.
Oui.
Donc vous êtes à la tête d'un budget de 50 milliards d'euros, bon, par exemple pour les réfugiés. Et
oui.
La moitié...
C'est l'aide d'urgence, oui.
À Gaza.
L'aide humanitaire.
Ouais. Oui, et la moitié à Gaza pour les hôpitaux et les écoles.
Oui, et on, déjà à l'époque, on voyait bien que nos investissements à Gaza étaient souvent détruits. C'est épouvantable. Donc... Mais c'était aussi des fonctions formidables, passionnantes, et avec beaucoup de députés très engagés. Et là, la couleur politique compte moins. C'est-à-dire qu'on trouve des gens très bien, de droite comme de gauche, qui souhaitent lutter contre la pauvreté et améliorer le monde. Donc c'était aussi un grand moment de ma vie que cette présidence.
Finalement, cette campagne présidentielle en 2012, vous êtes la candidate d'Europe Écologie Les Verts. Dans tout votre parcours, bien sûr, personnellement, c'est intéressant, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Hein.
Non, c'était crevant, surtout.
C'était crevant.
Oui, crevant. Ouais. C'est très, physiquement très dur, vraiment, ouais. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de prestations et que chaque prestation, il faut le préparer. Et donc, j'ai trouvé ça dur. Ouais.
Et puis, vous avez été caricaturée à l'époque.
Ah oui.
Moi, j'aimais bien votre marionnette au guignol.
Mais moi aussi, je l'ai trouvée sympathique.
Oui,
c'est vrai. C'est-à-dire, je me rappelle d'une scène où je suis invitée, la poupée est invitée dans un dîner. Et les enfants font beaucoup de bruit. Et je dis à ça, mais qu'est-ce qu'ils sont mal élevés, ces enfants.
Oui, vous êtes dans votre personnage, celle qui vient plomber un peu la soirée en remettant les vérités au milieu.
Oui, c'est ça.
Et d'ailleurs, en revoyant certains sketchs, on se rend compte à quel point c'était visionnaire, parce qu'on parle quand même de 2011-2012, et vous parlez presque des PFAS, des polluants éternels, etc.
C'était... Oui, mais évidemment, j'ai essayé de porter le combat écologique, et c'est pour ça qu'on a un candidat à la présidence. C'est pour profiter de tous ces slots, pour parler des choses importantes. Mais en réalité, c'est assez dur, parce qu'on est happé par les questions des journalistes qui s'intéressent peu en réalité à tout ça et qui sont beaucoup plus intéressés par la dernière sortie de Nicolas Hulot, ce qui n'a évidemment aucune importance d'aucune sorte.
Ouais. Et la dernière sortie de Nicolas Hulot était définitive.
Elle était définitive.
Eva Jolie, ensuite vous partez, vous avez beaucoup voyagé, hein, notamment pour des missions en Islande, avec votre copine Björk d'ailleurs,
oui.
Et puis il y a aussi l'Afghanistan.
Oui.
Ça, c'est fou. Vous avez quand même passé beaucoup de temps à Kaboul. Et je me suis dit, bon, pour quelqu'un qui a survécu déjà au congrès d'Europe Écologie Les Verts, vous êtes dit, Kaboul, je peux y aller. Mais, parce que, bon, voilà, la corruption, etc. Mais
oui.
Quelle expérience difficile aussi, ça.
Oui, je crois que ce qui m'a le plus frappé, j'ai fait un discours un 8 mars, donc un discours pour les femmes, au Centre culturel français à Kaboul. Il n'y avait que des hommes dans la salle.
Ah oui, évidemment. Ils ont été sensibles à votre discours.
Non, mais j'ai compris que c'était un peu absurde.
Ouais.
Et que oui, c'était une des missions difficiles. J'ai décidé, après l'attaque de mon hôtel, où il y a eu 9 morts, qu'il ne fallait plus que je sois aussi près du risque, que j'avais beaucoup de chance dans ma vie jusqu'à maintenant, et que là, à 70 ans, penser que je pouvais courir pour atteindre la chambre sécurisée avec les talibans... qui court après, je pense que c'était pas raisonnable. Donc j'ai arrêté.
Vous écrivez dans vos mémoires, l'engagement constitue la forme la plus sûre de la jeunesse intérieure. C'est ça votre secret ?
Oui, je pense qu'il n'y a rien de tel que de rencontrer d'autres, que d'échanger et de faire des choses qui font sens. Et ça, pour moi, c'est vraiment mon bonheur.
Et votre mantra, il ne faut pas que je flanche, vous le répétez souvent.
Oui. Et ça, il ne faut pas se laisser aller, quoi. Il faut lutter.
Est-ce que vous auriez envie de dire à la jeunesse qui nous écoute et à nous tous qui allons bientôt entrer dans l'ère Trump 2?
Oui. Mais bon, il faut résister tout ce qu'on peut. Alors, le danger maintenant, c'est aussi que la vérité disparaisse, parce qu'avec l'intelligence artificielle et le fait qu'on peut imiter incroyablement le réel, et avec la suppression de la modération sur les réseaux sociaux, on peut penser que le fait de se documenter va devenir plus dur. Donc c'est un devoir de s'informer et un devoir d'agir.
Eva Joly, merci beaucoup.
Merci Charlène Vanhoenacker.
Je vous rends à vos dossiers, vos archives, etc. pour changer le monde. Et on retient l'engagement et je conseille chaleureusement vos mémoires. J'ai passé une nuit d'hiver dehors. Eva Joly, c'est paru aux éditions Les Arènes. C'est passionnant. Je vous engage vraiment à le lire pour ce début d'année.
Merci.
Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à Ophélie Vivier qui en est la chargée de programme, François Audouin réalisateur, Andreas Jaffré à la technique et merci aussi à Théo Delobader au mixage aujourd'hui. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 19h20.